cours de doctrine appliquée. Alors, on est au numéro combien? Vous savez? 7, 8? Bon, on ne sait plus trop. Le temps passe trop vite. Mais on doit être par là, 7 ou 8. Pasteur Arnold, c'était le 8. Hein. Pasteur Arnold, ça comptait comme cours de doctrine appliquée. Donc, on est au 7e. Bon, c'est pas grave, c'est le 7e ou le 8e, on vérifiera ça. Et ce soir, on devait voir l'unité dans l'Église, mais j'aimerais qu'on fasse avant ça, il m'a semblé que c'était important qu'on voit cette doctrine de notre identité en Christ. Parce que l'unité dans l'Église, c'est en Christ. Donc si on ne connaît pas son identité en Christ, ça me semblait être intéressant de regarder ce thème avant. Donc on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour la vérité, cette vérité qui nous libère, qui nous affranchit. Et ce soir, on a besoin de toi, de nous vivifier après cette journée. On veut déposer à tes pieds les fardeaux, les difficultés, les soucis, les craintes, tout ce qui pourrait nous empêcher de nous asseoir avec confiance et avec foi pour recevoir cette parole qui nous guérit et qui nous restaure, qui nous édifie, qui nous construit, qui nous sanctifie. Et Seigneur, on te demande par ton Saint-Esprit de nous visiter ce soir. Nous ne méritons rien, et ce n'est pas basé sur nos mérites, mais c'est parce que nous avons confiance en toi, en ta parole, Seigneur, que nous te demandons de nous visiter et de nous édifier dans notre position en Christ, dans notre identité en Christ, dans ce que tu as opéré déjà pour chacun d'entre nous, et que nous avancions chacun d'une manière concrète, pratique, dans ce domaine-là, dans nos vies, pour te glorifier, te servir et pour notre joie, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, qui suis-je? C'est une grande question. Hein. C'est une grande question de la vie qui reste, en fait, qui reste toujours une question souvent profonde et sans qu'on réalise vraiment ce qu'on met derrière. Et ça a un impact sur notre vie quotidienne. Parce que vous dites, oh ben non, ma vie quotidienne, c'est... Non. Ça, la façon dont je pense qui je suis, dont je me vois, mon identité, ça a un impact sur mon quotidien. Donc c'est pour ça que c'est très pratique, et ça nous concerne en particulier ce soir. On va lire un texte dans Exode chapitre 3. Histoire de Moïse, vous connaissez certainement, lorsque Dieu vient le rencontrer dans le buisson ardent. Et Moïse s'approche, Dieu lui dit, enlève tes souliers, tes pieds, car cette terre sur laquelle tu es est un lieu saint. Et c'est Jésus-Christ, hein, c'est l'ange de l'Éternel, qui à travers ce buisson ardent vient parler à Moïse, vient appeler Moïse pour une mission. Une mission qui est d'aller délivrer son peuple, parce qu'il a vu son esclavage, sa souffrance, sa peine, d'accord ? Et c'est exactement, alors en parallèle, on pourrait mettre notre mission à nous aussi, en tant que chrétiens, en tant que croyants. Jésus nous invite à une mission, d'accord ? Une mission d'appartenir d'abord à son Église, et puis une mission d'aller délivrer ceux qui sont captifs. Alors bien sûr, on sait que ce n'est pas nous qui... Personne n'a sauvé personne. C'est le Seigneur, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui convainc, c'est lui. Mais il nous utilise dans cette œuvre-là. Hein, il se, quelque part, limité à nous. Hein, il nous accompagne, d'ailleurs, on va le voir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, Exode chapitre 3, verset 10, donc Dieu parle à Moïse, il lui dit, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Je serai avec toi. » Et juste après, Dieu va... Moïse va lui dire, « Mais quel est ton nom ?» Si on me dit, « Qui c'est qui t'es qui ?»« Hein ? Qui suis-je et toi t'es qui ?» Et quand on ne sait pas qui est Dieu, on ne sait pas qui je suis. Je ne peux pas savoir qui je suis si je ne sais pas qui est Dieu. Et donc, juste pour réaliser que pour vivre notre vie chrétienne, pour vivre la mission, l'appel que Dieu a sur nos vies, la première question, c'est qui suis-je ? La tâche que tu me demandes, mais qui suis-je pour faire une chose pareille ? Qui suis-je pour témoigner de ma foi ? Qui suis-je pour être missionnaire ? Qui suis-je pour être un chrétien ? Qui suis-je pour... Voilà, qui suis-je ? Grande question. Comment est-ce que j'évalue ma vie ? N'est-ce pas ? Cette recherche d'identité est souvent critique pour les adolescents, on le sait ça. Cette recherche d'identité, n'est-ce pas ? Ils se cherchent, ils s'émancipent et ne savent pas toujours qui ils sont. Et ils sont à la recherche de valeur, d'identité, qui je suis. Alors après, ils vont d'une extrême souvent à l'autre, ils suivent des modes, s'engagent derrière une idéologie pour certains, se conforment à un groupe pour d'autres, et sont prêts même à se soumettre à des contraintes, à des codes, d'accord, par exemple des habits vestimentaires. Vous rappelez l'époque de ma jeunesse, c'était pas mal de punk, on en voit moins aujourd'hui. Mais c'est après, il y a chaque époque à son. On recherche, on ne sait pas qui on est, on cherche. D'accord ? Donc, pour les adolescents, c'est un moment de crise, donc c'est un moment peut-être plus intense. Mais en fait, cette recherche, elle est toujours là. Alors après, peut-être en devenant plus grand ou en devenant adulte, on se pose peut-être moins la question et finalement, on accepte ce que le monde dit que nous sommes. Et on vit avec. D'accord ? Alors, selon quels critères je me mesure ? Premièrement, selon quels critères je me mesure, est-ce que j'évalue ma vie ? Et j'aimerais vous dire que le monde qui nous entoure, lui, se propose de nous évaluer. Il a une liste de critères par lesquels, inconsciemment, même nous, chrétiens, nous aussi, nous nous mesurons et nous évaluons notre vie. Et nous déterminons ce que nous sommes. Et triste à dire, dans ces critères-là, il n'y a aucune place pour Dieu. Tout ça n'est que supercherie et mensonge. Il y a une réalité. On ne vit pas dans un monde irréel. Hein. Mais on est trompé sur notre identité. Parce qu'elle est souvent définie par notre expérience. Alors j'ai toute une liste, là ça va peut-être un peu rapidement, mais on y reviendra dessus. Elle est définie par notre expérience, notre histoire, nos erreurs, nos échecs, nos péchés, nos blessures, nos réussites. Voilà comment le monde va nous définir et comment nous on s'évalue et comment nous on décide si notre vie, ce qui je suis, n'est-ce pas ? Elle est basée sur notre culture, sur notre éducation, sur notre travail. Ah, moi, qui tu es ? Ah ben moi, je suis médecin. Non, ça, c'est ton travail. Ça, c'est ton occupation. C'est très bien. Alors, tu dis, oh, moi, je suis médecin. Waouh, ça, c'est bien. Tu dis, je suis ouvrier. Bon, c'est déjà, bon, un peu classique, quoi. D'accord ? Tu dis, je suis un migrant. Alors là, presque, tu n'as pas de valeur. Et pourtant, ce sont des créatures aimées par Dieu. Donc, c'est voilà comment nous-mêmes, on est pris dans ce système-là. Donc, elle est basée sur aussi notre compte en banque. Vous savez, on n'invente pas. Hein. L'exemple, les hommes sont définis par leur voiture. Leur identité, c'est leur voiture. Il leur faut la BM, il leur faut la Porsche, il leur faut la Mercedes, il leur faut... C'est ça. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Ta valeur, c'est... Tu as raté ta vie. Ou si tu n'as pas une belle blonde à ton bras, tu as raté ta vie. Bah, c'est les critères de ce monde. Qu'est-ce que tu as sur ton compte en banque ? En France, peut-être, c'est quel diplôme tu as ? Aux États-Unis, c'est qu'est-ce que tu as sur ta banque ? Tu peux être un ouvrier, mais si tu as des millions en banque, tu as réussi ta vie, toi. Tu as de la valeur. Tu es quelqu'un, toi. D'accord ? Donc, c'est basé sur ça. Sur notre santé aussi. Hein ? Sur notre santé. Si tu n'as pas une bonne santé, tu es un fardeau pour la société, tu es un fardeau pour ta famille, tu es un fardeau pour toi-même, tu es un fardeau pour tout le monde. Même pour Dieu. presque limite. Sur notre physique. Alors ça c'est, je veux dire, dans un monde où tout est basé sur la vue, sur l'impression, sur la première impression, sur l'extérieur, là, le physique. On a parlé des diplômes, mais sur notre capacité intellectuelle. Sur notre pays aussi. Ah, tu es américain, tu roules des mécaniques. Tu viens d'un petit pays que personne ne connaît, du fin fond de l'Afrique. Ta monnaie, la monnaie de ton pays, c'est même pas une devise, enfin, je veux dire. Hein? Sur notre époque, donc sur les critères qu'on a en ce moment, aujourd'hui, dans notre société, sur nos amis aussi. C'est nos amis qui disent un petit peu qui on est. Sur nos relations, nos amis, nos difficultés aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais dans toutes ces choses, il n'y a pas de fondement biblique. Et nous, croyants, nous sommes prisonniers parce que peut-être on vit des choses particulières, difficiles, peu importe, et on se laisse écraser par cette façon de voir et de penser sur nous-mêmes. Et où est Dieu là-dedans ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le prince de la puissance de l'air, le diable, dans Éphésiens 2:2, lui va s'attaquer à notre identité, pas un peu, tout le temps, tous les jours. Tous les jours, et on va voir pourquoi, d'accord ? Et donc, ce qu'il voudrait, c'est qu'on on forge notre identité sur ces critères-là, sur ce que le monde dit, sur ma propre évaluation, sur ce que je vois, sur mon expérience, sur mon histoire, sur des choses qui sont vraiment quantifiables. Et je trouve mon identité. Alors après, c'est mon identité, c'est je suis un nul. Parce que mon identité, elle est dans mon passé, dans mes échecs, dans mes erreurs, dans mes blessures. Parce que je suis pas, j'ai pas le physique que j'aurais aimé avoir, ma vie est ratée. Hein? Ma vie, sur quoi elle est basée ? Alors après, ceux qui réussissent, ça tombe soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est un peu comme l'histoire de la conscience qui nous accuse ou qui nous défend dans Romains 2:15. Là, c'est exactement la même chose. Si on ne réussit pas, alors on est un échec, on est un nul, on a une mauvaise image propre de nous-mêmes. Et puis si on réussit plutôt avec les critères, on est bon élève, on est beau, on est intelligent, on est capable, on a des bons amis, on est gentil avec tout le monde. Alors là, on a réussi sa vie, et là, presque, c'est un ego surdimensionné. Mais dans les deux sens, dans les deux cas, ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que nous sommes en réalité. Pour nous, croyants. Parce que le monde ne peut pas se définir autrement que comme ça. Ils n'ont pas Christ. Mais nous, on a Christ, n'est-ce pas ? Donc ça change tout. La tragédie, c'est que un de nos problèmes par rapport à l'identité, c'est qu'on pense trop à nous-mêmes. On est trop centré sur nous-mêmes. On est trop dans l'évaluation de... En fait, j'aimerais vous dire, on est la plus mauvaise personne pour nous évaluer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, de sa parole et de son corps. Et la solution, ça sera d'être en Christ, donc dans la parole et dans son corps. C'est là qu'on va découvrir qui nous sommes, selon Dieu, selon la vérité. Deuxièmement, notre identité en Christ. Là, c'est Paul qui nous rappelle ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Il parle donc de son expérience, comme quoi il a vu le chapitre 15 d'un Corinthien, c'est la résurrection, et qu'il a vu donc le Christ ressuscité. Il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. 15:8, 1 Corinthiens 15:8. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10, et c'est le verset qui nous intéresse. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Qui va définir ce que je suis ? Christ, la grâce, la vérité. pas ce monde, pas ces critères, pas ma propre évaluation, pas mes propres raisonnements. Alors, quatre sous-points dans notre identité en Christ. La première, c'est l'ignorance et la confusion sont les terreaux du mal. L'ignorance et la confusion sont les terreaux du mal. Il ne veut pas qu'on sache qui on est en Christ. Ou alors il veut qu'on soit tellement confus qu'on ne sait pas qui on est en Christ. Et la question, c'est, on va se retrouver avec la situation de Moïse. Si tu ne sais pas qui tu es en Christ, si tu ne sais pas que Christ est en toi, que Dieu est avec toi, que je suis, parce que c'est comme ça que Dieu se définit un peu plus loin dans Exode 3, 14, il dit « Je suis celui qui suis ». C'est « Je suis ». Mon nom, c'est « Je suis ». Tu veux savoir qui tu es ? Ben, si tu ne connais pas « Je suis », si tu n'as pas « Je suis », tu ne sauras pas qui tu es. Tout ce que tu veux, tu peux essayer toute ta vie. Alors, tu donneras l'impression, mais c'est une identité usurpée. Si tu ne sais pas qui tu es en Christ, comment est-ce que tu vas pouvoir répondre à la vie chrétienne, à l'appel de Dieu, à la communion, à ce que Dieu te propose de vivre ? Parce qu'aujourd'hui, notre identité est basée, et énormément, notre valeur, notre identité, sont basées sur nos aptitudes, n'est-ce pas ? Si on a un don, si on a un talent. Oh, je n'ai pas parlé de la célébrité tout à l'heure. On définit parce qu'on est célèbre qu'on est connu. D'accord ? Si tu es connu, si tu as du monde qui te suit sur les réseaux sociaux, si tu as beaucoup de likes, alors de likes, on ne dit pas, je sais pas, enfin, si tu en as beaucoup, avec beaucoup de S ou pas de S, de likes, non, il n'y a pas d'S, c'est anglais. Donc si tu en as beaucoup, voilà, tu as réussi ta vie. S'il n'y a personne qui te suit, s'il n'y a personne qui te voit, tu n'as pas réussi ta vie. Et le danger, c'est que si on commence la vie chrétienne avec nos aptitudes naturelles, charnelles, terrestres, et qu'on rentre dans la vie chrétienne comme on rentre dans cette vie, dans ce monde, où il faut que nous arrivions à un standard, à une mesure, il faut qu'on ait quelques valeurs, sinon on vaut rien. Alors vous savez, des fois les mauvais élèves, la seule valeur qu'ils ont, c'est dans la bêtise. Donc c'est comme ça qu'ils existent, c'est leur identité. Moi je suis le cancre, je suis le rigolo, je fais que des bêtises, c'est comme ça que je me fais connaître, parce qu'à l'école, j'ai pas des bonnes notes. Et le danger dans la vie chrétienne, c'est de démarrer notre vie chrétienne en pensant que maintenant, il va falloir que je fasse quelque chose pour mériter et atteindre une valeur et atteindre une identité, sans comprendre que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc si on ne commence pas la vie chrétienne avec comme fondement la grâce de Dieu et l'œuvre accomplie, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, tout est accompli. Je n'ai rien, parce que sinon on rentre dans la vie chrétienne comme on est dans le monde. Et on veut réussir dans l'Église comme on n'a pas réussi dans le monde, donc on dit on va essayer dans l'Église. Mais si on commence avec la même façon de fonctionner basée sur les mérites, sur développer mes aptitudes pour faire des choses pour Dieu, le diable a gagné. Parce que très vite, ça va être frustration, fatigue, désabusé, désappointé. Et vous savez ce qui va se passer ? On va dire, ben ça aussi, le christianisme, ciao, ça ne marche pas. Et avec raison. Mais on n'est pas parti sur le bon fondement. On n'a pas compris qui on était d'abord. Donc si on ne sait pas qui nous sommes en Christ, comment on va répondre à ce que Dieu nous propose ? Et on ne vit pas la vie chrétienne. Le diable attaque constamment, continuellement notre identité. Un exemple, c'est celui de Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 3 et verset 17, qu'est-ce qui se passe ? C'est son baptême. À ce moment-là, la Bible nous dit qu'il y a une colombe qui descend à la sortie des eaux. Et il nous voit qui se fait entendre du ciel et qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » D'accord ? Ça, c'est Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 4. C'est la tentation. Jésus qui part au désert. Non, il n'avait pas besoin de dessert parce qu'il ne va pas manger pendant 40 jours. Jésus qui part pendant 40 jours dans le désert. Et qu'est-ce qu'au bout de ces 40 jours, déjà quand on ne mange pas pendant une journée, c'est dur, mais au bout de 40 jours, le diable vient l'attaquer. Et comment est-ce qu'il commence ses premières paroles qu'il adresse à Jésus-Christ ? Je vous le lis, Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu. Et il va le reprendre un peu plus loin au verset 6 et lui dit, deuxième tentation, si tu es le fils de Dieu, si tu es le... Tu es qui, toi ? Première chose qu'il attaque, c'est l'identité. Et s'il se permet d'attaquer l'identité de Jésus-Christ, vous imaginez bien qu'il ne va pas s'en priver pour nous. Nous, c'est de la rigolade. Là, il s'adresse et Jésus... Et même, il va utiliser la parole de Dieu. Donc, il est très subtil. C'est-à-dire que même nous, chrétiens, il va utiliser la parole de Dieu pour nous essayer de nous accuser, nous condamner et nous montrer qu'on n'est pas à la hauteur. En fait, le diable, il aveugle nos pensées. Pour nous garder dans cette confusion, pour que nous ne sachions pas qui nous sommes en Christ. C'est ce qu'il dira dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, où il dit « Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » C'est que tant qu'on n'a pas Christ, tant qu'on ne laisse pas la parole de Dieu définir ce que nous sommes, et on ne croit pas ce que Dieu dit de nous, et qu'on n'accepte pas ce que Dieu dit... C'est le défi de notre vie chrétienne, c'est d'accepter ce que Dieu dit de nous. C'est ça la foi. Ce n'est pas de marcher par la vue, parce que dans la vue, il y a encore une vieille nature pécheresse, il y a encore un monde autour de nous, il y a encore un monde de péché. Mais le voile sans Christ, il ne peut pas sauter. Alors vous imaginez bien s'enlever. Vous imaginez bien que le prince de ce monde, le diable, il s'amuse bien avec le monde. Il y a un voile. L'idée du mot en grec, c'est comme une épaisse fumée. C'est le brouillard. Les gens sont dans le brouillard. Et ce brouillard, il vient du diable. Il vient de l'atmosphère. De Corinthiens 4, 4, il dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » C'est-à-dire qu'ils ne sachent pas qui ils sont en Christ. C'est ça que ça veut dire. Ils ne voient pas l'œuvre de Christ. Ils ne voient pas la rédemption, ils ne voient pas leur nouvelle identité, ils ne voient pas qu'ils sont une nouvelle création, ils ne voient pas ce que Dieu a fait. Ils ne sont pas dans l'œuvre accomplie. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans l'œuvre accomplie comme fondement. Et c'est même nous qui entendons ces choses-là, ce n'est pas naturel. On a besoin de Dieu, on a besoin de la foi, on a besoin d'élever la parole de Dieu au-dessus de notre expérience. Et on verra les solutions par rapport à ça. Les conséquences de cette ignorance ou de ce mensonge, on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est que si tu ne sais pas qui est en Christ, ben, tu ne pourras jamais exercer tes aptitudes spirituelles que tu as en Christ. Donc tu vas essayer dans la chair, tu vas essayer avec tes bonnes intentions. Et ça sera vite la fatigue, la lassitude et la frustration parce qu'il n'y aura pas de résultat. Donc Satan va essayer de tout faire pour garder un croyant loin de son identité en Christ. Et j'aimerais rajouter, Satan va essayer de tout faire pour garder une église loin de son identité en Christ. Et il y arrive, dans certaines mesures. Parce qu'il n'y a pas un enseignement clair sur ces choses-là, parce qu'il n'y a pas la foi dans ce que Dieu dit, parce qu'on n'élève pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est élevée, c'est les critères de ce monde qui sont élevés au-dessus. Parce qu'ils sont réels, parce qu'ils sont concrets, parce qu'ils sont « je les vois ». Parce que je peux les mesurer. Et on ne vit pas par la foi. Alors, quelles sont nos armes face à cette stratégie ? En fait, vous savez, quand mon beau-frère a eu cette expérience, déjà il y a quelques années en arrière, et ça a posé quelques problèmes, je ne sais pas si tu te souviens, Marco, on lui a volé sa carte d'identité, ou son passeport, je ne sais pas exactement ce que c'était, tu te rappelles ? Le passeport. Un vol d'identité. Eh bien, en fait, il y a quelqu'un qui a usurpé son identité. Et c'est un criminel recherché par la police, ça c'est connu, qui avait la même tête que Marco. Mais ce n'était pas Marco, je vous rassure tout de suite. Mais, évidemment, il a été arrêté. Il a été emmené au poste avec son fils, qui était jeune. Enfin, je veux dire, ça a été une aventure assez... Jusqu'à ce qu'on réalise que ce n'était pas la bonne personne. Parce qu'on lui avait volé son identité. Donc si on te vole ton identité, ça a des conséquences graves en réalité. Après, quand il devait prendre l'avion, il devait se présenter une demi-journée avant pour dire que c'était bien lui, avec des attestations. Enfin, c'était compliqué. D'accord ? Vol d'identité, ben, c'est ce que le diable fait. Il veut voler notre identité. Il veut nous voler notre vraie identité. Et il nous en colle une autre. D'accord ? Tu es un échec. Tu es... Oh, toi, tu es un héros. Toi, tu es un intellectuel. Toi, tu es un surdoué. Alors, la plupart du temps, c'est plutôt en bas hein, qui nous place. D'accord ? Mais pour ceux qui ont des capacités, il les élève. Il les fait pomper et gonfler. Hein. Et donc... J'ai besoin de savoir que je suis en Christ et dans le corps de Christ. Ça, c'est les deux réponses face à cette confusion. C'est la vérité. En Christ. Que dit Christ ? Que dit la parole de Dieu ? Pas ce que je sens, pas ce que je vois, pas ce que je raisonne, pas ce que l'atmosphère me dit, pas ce que mon voisin me dit, pas ce que mes parents me disent. Oh, toi, tu es un diable. Tu seras toujours un diable. C'est destructeur, ça. On ne se rend pas compte des paroles qu'on peut laisser. Un prof qui t'humilie, qui te casse, et tu seras un âne, tu ne feras rien de ta vie. Vous imaginez ? Et ça, c'est la réalité de beaucoup d'entre nous. Et après, on vit dans cette identité. Ben non, moi, je suis un cancre. Moi, je ne peux pas faire l'institut public. Je sais à peine lire. Donc, ces deux choses sont le fondement. Parce que Christ, c'est la parole, c'est la vérité. Et l'Église, le corps de Christ, c'est le lieu où je vais expérimenter. Et c'est le lieu où je vais trouver le regard dont j'ai besoin sur moi-même. Un regard de grâce, un regard de vérité, un regard... C'est pas l'Église doit passer la pommade, mais l'Église, dans l'Église, on est appelé à ne pas se connaître selon la chair, mais à se voir en Christ. C'est ça l'Église. Vous comprenez que j'en ai besoin de me voir en Christ ? Parce que moi, j'ai du mal à me voir en Christ, parce que je sais qui je suis dans la chair. Et si je n'ai pas le regard des autres, plein de grâce, plein de foi, plein de miséricorde, le regard de Jésus à travers eux, comment est-ce que je vais pouvoir savoir qui je suis en Christ ? J'ai besoin et de la parole qui me dit, et de l'expérience qui va avec. Cet amour inconditionnel qui commence à construire une capacité de croire la vérité de la parole. Et les deux ensemble, ben, je vais construire, je vais sortir de ce brouillard, de cette confusion et de ces mensonges. Parce que, en réalité, je suis la dernière personne à pouvoir bien m'évaluer. Donc, n'essayons même pas. Hein ? La parole de Dieu parle de s'examiner, mais pas de s'évaluer. Mon identité, elle n'est pas définie par mon expérience, par les fruits que je porte, par... elle est définie par ce que Dieu a fait et ce que Dieu dit et ce que j'ai reçu. Et c'est ça notre vraie identité. Parce que maintenant, si je découvre véritablement ce que je suis en Christ, alors là, je vais avoir des aptitudes spirituelles. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il a rencontré Je suis. Il a découvert qu'il était en Je suis. Il a découvert que Pharaon, c'est Poutine, c'est comment il s'appelle aux États-Unis, Trump. C'est voilà, qu'est-ce que tu veux faire contre les États-Unis ? Qui tu es, toi ? Tu vas lui dire, il va te dire, il va regarder, il va te rigoler. Et en fait, c'est ce qui va se passer. Pharaon va lui rigoler à la figure, à Moïse. Et ça va être difficile, parce que les premières tentatives, ça va plutôt emmener les gens en bas. Hein, ils vont devoir aller faire, en plus de faire les briques, les mêmes nombres de briques, ils doivent aller chercher la paille pour les faire. Donc ils sont écrasés. Et Moïse dit, mais Seigneur, ça ne devait pas aller dans ce sens-là. Et pourtant, Dieu avec lui et les choses vont se passer. Et c'est ça la vie de foi. C'est pas que, oh, maintenant les Superman, je suis en Christ, moi, tout ce que je fais... Non, on marche par la foi dans l'humilité et on se rend compte qu'on a besoin de Dieu et c'est Dieu en moi. Et Dieu en moi et moi en lui. Et savoir qui je suis en lui. Donc, si on n'établit pas notre identité en Christ, si on ne... Et je parle de ça, on a besoin de l'étudier, comme on le fait là ce soir, mais on a besoin de s'édifier dans la parole de Dieu chaque jour. De s'édifier dans l'amour de Dieu chaque jour. Parce que le diable, petit à petit, vient comme un renard qui ronge la vigne, et il vient nous faire douter de l'amour de Dieu. Et quand on voit ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit, on se dit, mais c'est pas possible que Dieu m'aime. C'est pas possible. c'est pas possible que je sois une nouvelle création. Il s'est trompé, avec moi ça marche pas. Parce que c'est ça notre identité en Christ. On va y venir en 2 Corinthiens 5, 17, c'est que nous sommes une nouvelle création. Et toutes choses anciennes sont passées. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce que dit Jésus-Christ. Dans mon expérience, on est d'accord. Il y a encore des difficultés. Il y a encore, on tombe, des fois plus souvent que ce qu'on voudrait. Mais c'est ce que nous sommes. Parce que si on ne sait pas qui on est en Christ, alors ça va être la crainte, l'anxiété, les raisonnements, les projections de l'atmosphère qui vont arriver. Et face à ça, quelle est notre solution ? Ben, face aux projections et aux raisonnements, la Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 5 de renverser ces raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que ces pensées-là, elles sont là, elles viennent, d'accord ? Mais je les rejette. On va me dire, mais au bout d'un moment, j'y arrive pas. Ben, de toute façon, on ne pourra pas enlever ses pensées. Je crois que c'est Luther qui disait ça. Vous ne pouvez pas empêcher qu'un oiseau tourne au-dessus de votre tête. Mais vous pouvez l'empêcher qu'il fasse un nid sur votre tête. D'accord ? Donc, et c'est pour ça que le corps de Christ devient un lieu et la parole de Dieu devient une activité indispensable. Parce que si on n'est pas nourri de la parole de Dieu et si on n'a pas l'amour du corps de Christ, eh bien, petit à petit, on ne va plus avoir la force de lutter pour que l'oiseau ne fasse pas son nid sur notre tête. Et on va commencer à raisonner ce que le diable voudrait qu'on raisonne. On va se nourrir de notre passé, on va se nourrir de nos échecs. Et on parlait de ça dimanche au temps de questions-réponses. Vous savez, dans une voiture, il y a un petit rétroviseur et il y a un grand pare-brise. D'accord ? Et malheureusement, les gens, ils regardent, ils voient leur rétroviseur est grand comme le pare-brise et leur vitre et leur pare-brise est petit comme un rétroviseur. Ils sont bloqués avec le passé, avec les blessures et les échecs. Ça, c'est leur identité. Faux, mensonge. Et si on est bloqué avec ça, quand Dieu va vous dire, eh ben va, ben, tu dis, ben non, je ne peux pas y aller. Qui suis-je ? Et c'est le cercle vicieux. C'est le cercle vicieux. Face à la crainte et à l'anxiété, c'est ce que Timothée a expérimenté un petit peu. Il était apparemment peut-être un peu timide. Et Paul lui dit en 2 Timothée chapitre 1 et verset 7, et je vous le lis, 2 Timothée chapitre 1 et verset 7, il dit à Timothée, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée chapitre 1 et verset 7. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Le Saint-Esprit en nous. Cette nouvelle création, nous sommes. Face à la crainte et à l'anxiété, face voilà, à ce que les autres disent, face au monde, la crainte des hommes, Proverbe 25, 20, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte. Combien on est souvent dans la crainte ? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Et quelqu'un dit quelque chose de pas bien gentil sur nous, qui a peut-être un peu de vrai, et ça nous blesse profondément, et ça nous atteint, et ça nous met à terre, et on pense qu'au... Voilà, et c'est comme si, voilà, la crainte, et là, après c'est l'anxiété qui vient, et on dit, ma vie, elle est nulle, elle est ratée, regarde. Et puis, le diable va te mettre des éléments vrais. Je veux dire, regarde ton couple, regarde tes enfants, regarde ta situation financière, regarde ta santé. Regarde, mais juste regarde. Non, mais je marche par la foi, dans ce que Dieu dit, dans ce qu'il a fait. Et je vais amener ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Non, non, ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est la confusion. Ça, c'est le brouillard. Ça, tu veux m'embrouiller. Ça, tu veux me garder à terre. Parce que le diable a peur quand on se lève. Parce que le diable a peur quand on commence à savoir qui on est. Il tremble. Et Moïse, il va réussir. Paul, il va réussir. Oh, ça se fera pas sans difficulté, sans peine. Ça, c'est la vie, c'est normal. Mais il va y avoir un fruit. Il va y avoir une victoire. Et c'est la victoire de Christ. Ce n'est pas la victoire de l'homme par sa propre force. D'ailleurs, Paul le dira. C'est quand je suis faible que je suis fort. Ce n'est pas quand je suis fort en moi-même. C'est dans la nouvelle création. C'est pour ça que Dieu affaiblit l'ancienne, pour qu'on s'appuie sur la nouvelle, et la nouvelle seulement, parce que c'est elle qui est éternelle. L'ancienne, c'est la croix, sa destinée. Elle est morte, elle est crucifiée, c'est terminé. Elle gesticule encore un peu, c'est comme le canard, tu l'as coupé la tête, il bouge encore, il peut courir et tout ça. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Et nous, on le voit courir partout, on le voit le sang qui gicle partout, on a peur, on a la crainte. Alors, maintenant, on va voir quelques exemples. Moïse, il aurait pu se poser la question, qui je suis ? Il se pose la question, il a, à juste titre, il dit, est-ce que je suis vraiment un enfant d'Hébreu ? Parce qu'il est adopté, ce petit Moïse. C'est qui mes parents ? C'est qui mon identité ? Quand quelqu'un est adopté, c'est ça, la pire des choses, c'est qui mes parents ? C'est qui je suis ? Vous voyez cette recherche d'identité, comme elle est importante ? Et les gens, tant qu'ils n'ont pas trouvé leurs parents, s'ils sont encore en vie, ils vont passer leur vie à ça, pour savoir qui je suis. Et la première question qu'il peut se poser, est-ce que je suis vraiment enfant d'Hébreu ? Parce que, bon, comment il a découvert ça ? Hein ? On ne sait pas vraiment. Ce n'est pas en regardant le film de Moïse qu'on aura la réponse. Un jour, on le saura. En tout cas, c'est la question. T'es qui mes parents ? Il va le savoir, puisqu'après, il saura que Aaron et Miriam sont son frère et sa sœur. Donc, il saura, d'accord, qui il est. Mais après, il va dire, mais est-ce que je suis ma vieille nature pécheresse ? Regarde ce que j'ai fait. Qui c'est qui a tué quelqu'un ici ? Personne, heureusement. Merci Seigneur. Si vous l'avez fait, ne le dites pas, on ne veut pas vous connaître dans la chair. Mais lui, il a tué quelqu'un. Lui. C'est ça mon identité, meurtrier ? Parce que ça, c'est, je veux dire, et c'est pour ça qu'il se cavale d'ailleurs. C'est ça son identité. Je suis meurtrier, moi. Et deux tiers de la Bible sont écrits par des meurtriers. David, Moïse et Paul. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pour vous dire, hey, vous êtes qualifiés. Mais quelque part, c'est terrible, évidemment. Mais d'un autre côté, c'est juste pour montrer que ces hommes-là, malgré leur tragique acte, ils ont pu rebondir et se connaître en Christ. Et en fait, quelque part, ils n'avaient aucune possibilité. Enfin, ils ne pouvaient pas vivre dans la chair avec un poids pareil. Nous, on n'a pas tué personne. On a tué personne, pardon. Donc, on n'a volé personne. Donc, notre chair, elle est presque acceptable. Alors qu'elle est aussi pourrie. Parce qu'on ne l'a peut-être pas fait en acte, mais on l'a fait en parole ou en pensée. Et aux yeux de Dieu, alors, il y a un degré, hein, on est d'accord. Mais alors, il est qui, ce Moïse ? Es-tu le fils de Jéthro ? Alors, après, non. Es-tu le fils de la fille de Pharaon ? Et le résultat de leur éducation égyptienne, et de leur sagesse et de leur science ? Parce qu'il a été éduqué dans la sagesse égyptienne, Moïse. Il est qui ? Il est son éducation ? Ah ! Parce qu'il peut se poser ces questions. On se pose ces questions. Après, est-ce qu'il est... Maintenant, il est le gendre de Jéthro. 40 ans dans le désert, tu ne penses pas qu'il y a une influence de Jéthro sur sa vie ? Est-ce que tu es le fils de Jéthro, maintenant ? Et tu es qui, Moïse ? Qui je suis, moi, pour faire une chose pareille ? Et la chose extraordinaire, c'est que Dieu lui dit, « Je suis celui qui suis, et je suis en toi celui qui suis, et avec toi. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu veux savoir qui tu es ? C'est en moi que tu vas le trouver. Et c'est en moi seulement que tu vas pouvoir accomplir. Parce que ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, qui est intéressant, c'est que notre identité, notre nouvelle identité, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, c'est Paul qui dit ça, et il en avait bien besoin, et on en a tous véritablement besoin, parce que, juste une petite parenthèse, je crois qu'en avançant dans la vie chrétienne, et c'est le témoignage de l'apôtre Paul, on va prendre conscience de plus en plus de notre indignité. Mais en même temps, on en est détaché de plus en plus. Vous comprenez ? C'est pas maintenant, je suis indigne, c'est plus mon identité. Mais on le sait qu'on est. Et trois versets intéressants qui m'ont interpellé. Le premier, celui-ci, 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 8, qui dit, verset 9, il dit, « Moi, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Il dit là, « Je suis le moindre des apôtres. » Et un peu plus tard, dans sa vie, en Éphésiens chapitre 3, verset 8, il va dire, « Je suis le moindre des saints. » Alors, il est le dernier des apôtres. D'accord ? Mais maintenant, il est le dernier des saints. Donc là, on a élargi, on est descendu quand même de quelques marches. Et à la fin, 1 Timothée 1,15, « Je suis le premier de tous les pécheurs. » Mais pourquoi il peut dire ça? Parce qu'il a de plus en plus compris qu'il est en Christ. Et c'est la vérité, en fait. Mais tant qu'on n'a pas compris qu'on est, et qu'on n'est pas sécure en Christ, c'est difficile de dire ces choses-là et de les accepter, de les reconnaître. Non, il y a encore quelque chose d'un peu de bon en moi. Non, il n'y a rien de bon. Et malheureusement, l'identité de notre passé, de notre histoire, nous colle à la peau. Et les gens sont souvent... Et nous, on aurait tendance à faire ça. Et nous, s'il vous plaît, demandons à Dieu qu'il nous aide, qu'il nous secoure, pour ne pas le faire vis-à-vis de nous-mêmes et pas le faire vis-à-vis des autres non plus. Voilà, comment, si on avait été à l'époque de Josué, hein, la conquête... De Jéricho, formidable, extraordinaire, tout ça. Et puis là, il y a une Rahab, la prostituée. Est-ce qu'on va lui garder son titre toute sa vie, Rahab, la prostituée? Un tel le divorcé? Un tel l'ancien alcoolique? Un tel le drogué? Un tel l'ex-drogué? Et c'est facile de marquer des titres comme ça. Et même dans le christianisme, après, des fois, les gens se présentent et ils racontent leur témoignage et dévoilent tout leur passé. Alors que ce qu'on n'a pas besoin de savoir ça. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir que, OK, ils ont eu un passé, mais maintenant, ils sont une nouvelle création. Et ce n'est pas dans le passé qu'ils sont dans le présent, avec Christ, en Christ. Et Rahab, elle, quelle est sa destinée ? Elle va rentrer dans la lignée du Messie. Mais c'est pas possible, c'était une prostituée. Non, ça c'est l'ancien. Maintenant, les choses anciennes de Corinthiens 5 et 7 sont passées, tout est devenu nouveau, tu es une nouvelle création, tu es racheté. Oui, mais mon ancien, il est tellement lourd à porter. Je pense que prostituée pour une femme, c'est lourd à porter. Quand tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on ne se connaît pas selon la chair. C'est pour ça qu'on ne raconte pas notre passé ni notre histoire. Parce que c'est en Christ qu'on veut se connaître. Parce que c'est en Christ qu'on a la vie. Parce que c'est en Christ qu'on peut répondre à cette vie à laquelle il nous invite. Sinon, on continuera à vivre dans l'autre. Et le diable va dire, ouais, peut-être que vous êtes sauvés, je ne peux pas vous enlever le salut. Bon, mais si je peux vous enlever votre témoignage et votre vie joyeuse et votre vie paisible et votre vie d'enfant de Dieu, alors là, je vais me frotter les mains. Ruth, Moabite, une paria. Elle n'est même pas dans la. S'il y avait des castes, elle ne rentre dans aucune d'elles. Elle est en dessous de la dernière des castes en Inde. Elle est intouchable, moins qu'une intouchable. Et elle aussi va devenir une héros. Un héros ? Une héroïne, merci. J'ai mon dictionnaire vivant à côté là. Une héroïne parmi le peuple d'Israël. Dans la lignée du Messie aussi. La gueule de David, du roi David, du grand roi David. Daniel, chapitre 1. Quelle est la stratégie du monde? Quelle est la stratégie de Babylone? C'est quoi? Ils sont esclaves, ok. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Changer leur nom. Changer leur nourriture. Changer leur éducation. Changer leur roi. Et à la fin, changer leur dieu. C'est ça, le but du monde. Il veut te donner une autre identité pour que tu n'adores pas Dieu, pour que tu ne connaisses pas Dieu, pour que tu ne serves pas Dieu, pour que tu ne vives pas dans la liberté que Dieu t'a donnée. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est libre. Et quelque part, le danger, c'est de se laisser modeler comme de l'argile par Satan, basé sur ce qu'on a fait, basé sur ce que les autres nous ont fait, basé sur nos mérites et nos performances. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à n'importe quelle personne lambda qui passe dans la rue qui tu es, il va te dire « je suis mon travail », ou « je suis ma réussite », ou « je suis mon échec ». Voilà. En gros, c'est ça. Alors après, ça se décline sous plein de formes, mais le résumé, c'est ça. Et je vais terminer, parce que... Pas le thème, parce qu'il y a encore à dire. Mais je vais terminer pour ce soir et on va faire un dernier chant ensemble. Mais juste qu'on comprenne ce que je veux vous communiquer quand même ce soir. On doit faire attention de ne pas manger les mensonges du diable. Sinon, c'est le découragement et c'est la désolation. Et ça arrive vite. Et pour ça, encore une fois, on a besoin de se nourrir de la vérité. On a besoin de l'expérimenter, cette vérité. C'est pour ça qu'on ne peut pas se dissocier et notre vie en Christ, dans la parole, avec la parole, par la parole, de la parole, et notre vie dans le corps de Christ. Ça, c'est un point très important. Imaginez combien ça change tout quand on réalise la valeur qu'on a en Christ. Quand on réalise qui est avec nous. Quand on réalise que je suis le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est là, à côté, avec moi, en moi, pour moi, derrière moi, inconditionnellement. Et on pourrait dire, dans l'église par exemple, si tu es pasteur, tu as réussi, voilà, tu es pasteur, tu as réussi. Si je pouvais être pasteur, j'aurais réussi ma vie. Moi je ne suis qu'une femme. Je suis une maman à la maison. Je torche les petits, je nettoie la maison. Vous comprenez ce que je veux dire. On pourrait se dire, selon les critères de ce monde, mais attends, il faut que tu ailles travailler. Tu dois avoir une valeur, une identité. Tu ne peux pas rester qu'à la maison à t'occuper de tes petits. C'est insensé. Tu rates ta vie, là. Tu ne sais pas qui tu es, ce n'est pas possible. Tu n'as pas de vie sociale, tu es avec tes petits seulement. Et juste de réaliser que, attends, Dieu ne me dit pas, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut... Non, tu marches avec Dieu dans ta maison, avec tes enfants, mais tu es une héroïne, selon Dieu. Tu es un... Si on n'avait pas eu une Madame Wesley, la mère de John Wesley, on n'aurait pas eu un John Wesley. Et je pense que l'influence de leur maman sur leur vie a été phénoménale pour leur vie et leur ministère, après. Le rôle d'une maman. Je dis, mais selon les critères de ce monde, mais elle vaut rien. Sa valeur, il n'y a pas de... Qui elle est. Et selon Dieu, c'est tu te rends compte, confier des enfants à éduquer, à investir le cœur et l'amour de Dieu. Donc, ne pas laisser le diable nous faire croire ce que lui dit de nous, ou ce que ce monde dit de nous, ou ce que des gens disent de nous. Et ça va jusque-là, après, notre sécurité en Christ. Oh, tu peux penser ce que tu veux, moi je sais qui je suis en Christ. Alors, je ne dis pas qu'il faut être arrogant et présomptueux. Il faut savoir se remettre en question. Mais si on a fait des erreurs, voilà. Mais après, si c'est juste l'atmosphère qui utilise la langue d'un chrétien pour te casser, tu dois le discerner aussi. Ce n'est pas la vérité. Et ce chrétien, ça peut être toi-même. Et c'est souvent toi-même qui te descend le plus. Moi-même qui me descend le plus. Donc, on a besoin. On s'arrête là ? On va faire un chant.